Religion du monde, Geneviève Delru.
Le service protestant.
Question d'islam par Al Bensheir.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Religion du Monde, l'émission d'actualité des religions de RFI à l'occasion de la fête de la radio lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour célébrer le centenaire de la radio mais aussi les 40 ans de la bande FM. Religion du Monde s'intéresse ce dimanche à la place des religions sur les ondes en France et à l'étranger. À la fois à travers les émissions du service public, notamment celle du dimanche matin sur France Culture, les radios associatives à caractère confessionnel comme le réseau RCF, la radio chrétienne francophone, puis nous irons au Brésil où les radios évangéliques sont particulièrement développées et notre pérégrination radiophonique s'arrêtera à Rome dans les studios de Radio Vatican qui, à l'image de RFI, avec sa rédaction francophone et en langue étrangère, est écoutée sur les 5 continents. Dans les études qui ont été consacrées à la place des religions dans les radios et aussi les télévisions, il y a celle de Clément Malherbe, chef de projet à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Étude publiée dans la revue des médias de l'INA et qui fait apparaître que les émissions religieuses ont accompagné la naissance de la radio.
Tout à fait. Les émissions religieuses sont diffusées en France, donc sur les ondes de la radio publique dès la fin des années 1920, avec la retransmission des conférences de carême catholique et protestant, et ensuite à la télévision à partir des années 40. Donc on peut dire que ce sont parmi les plus anciens programmes de radio.
Parce que on peut dire aussi que ces émissions sont dans le cahier des charges des radios et des télévisions.
Absolument. En fait, les premières années, donc la diffusion des émissions religieuses s'inscrivait dans un contexte de débat autour du principe de laïcité et de la neutralité du service public. Et donc la diffusion de ces programmes a été encadrée à partir de 1974 et plus précisément à partir de la loi Léotard, donc de septembre 86, sur la liberté de communication qui est toujours en vigueur actuellement. En effet, cette loi impose aux chaînes publiques l'obligation de diffuser une émission religieuse sur leur antenne pour permettre aux citoyens d'avoir une approche culturelle et cultuelle. Donc de la même manière que pour France Télévisions, la diffusion des émissions religieuses est encadrée dans le cahier des charges de France Télévisions, pour la radio, donc Radio France a obligation de diffuser sur ses antennes des émissions religieuses. Donc c'est dans son cahier des charges.
Clément Malherbe, il y a quelques instants, vous évoquiez la laïcité et ces lois précisément qui encadrent les émissions religieuses dans le service public. Est-ce que cela veut dire qu'elles ont été problématiques, elles ont été discutées à un moment donné ?
Oui, tout à fait, elles ont été discutées dans la mesure où il pouvait être problématique, il pouvait être considéré comme problématique de diffuser des émissions sur la religion à la télévision ou à la radio. Et en fait, ce qui a été retenu, c'est la neutralité par le pluralisme, c'est-à-dire, en gros, l'idée est que le pluralisme dans le contenu de l'audiovisuel public est une garantie de la neutralité. Et donc, voilà, c'est cette adaptation du droit qui a été retenue dans la mesure où le service public avait vocation à informer les citoyens, à leur permettre d'avoir une approche de la diversité des religions en France.
Alors, pour les radios, toujours, il y a Religion du Monde sur RFI, mais sinon, autrement, c'est France Culture au niveau national, qui est l'hébergeur en quelque sorte des émissions religieuses, et cela le dimanche matin.
Absolument. En fait, de la même façon que pour la télévision, c'est France 2 donc, qui est chargée de diffuser les émissions religieuses sur son antenne donc le dimanche, qui est le jour du culte catholique. France Culture, depuis sa création donc sous son nom propre en 1963, est donc la station qui diffuse les émissions religieuses, donc le dimanche matin également. France Inter a eu des émissions religieuses sur son antenne. Depuis maintenant un certain temps, c'est France Culture, à raison de 3h40 de programme le dimanche matin, des émissions sur différentes religions qui donnent un panorama des principales religions donc, qui sont pratiquées en France.
Alors, ce qui est intéressant, Clément Malherbe, c'est de voir le changement de nom de ces émissions. Hein. Par exemple, Talmudique sur France Culture, eh bien, à sa création, s'appelait La Voix d'Israël.
Oui, tout à fait.
Puis après, ça a été Écoute Israël après, hein, c'est cela. Et ça, c'était La Voix d'Israël, c'était en 1946.
Oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant de voir que même si certains programmes ont changé de nom au cours du temps ou de formule éditoriale, comme par exemple Talmudic que vous citiez, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que depuis une cinquantaine d'années, la grille des émissions est restée globalement la même. Donc avec donc un volume horaire qui est tout à fait stable au cours du temps. Mais donc ensuite, les émissions ont un petit peu changé en termes de contenu et de forme. Mais en tout cas, la grille est très stable au cours du temps.
De même, Culture d'Islam, aujourd'hui, est devenue Question d'Islam. Culture d'Islam qui est apparue sur l'antenne en 1997.
Absolument, et aussi on peut souligner que en plus de ces émissions donc dans la case du dimanche matin sur France Culture, d'autres radios, pas forcément uniquement les radios de Radio France, mais diffusent aussi des émissions sur la religion. Donc ça s'inscrit dans une problématique d'ouverture des savoirs. Par exemple, on peut citer l'émission Faut-il y croire, par exemple, ou de nombreuses émissions qui abordent la religion ou la question de la spiritualité, comme Le Vif de l'Histoire, Le Grand Face-à-Face ou Barbatruc, par exemple, une émission qui s'intéresse au savoir et qui est à destination des enfants.
Je vous remercie, Clément Malherbe. Merci.
Talmudique.
Nous en parlions il y a quelques instants avec Clément Malherbe. Talmudique est une des émissions religieuses du service public. Diffusée sur France Culture le dimanche matin aux côtés des autres religions monothéistes et spiritualité laïque, Talmudique est coproduite par Marc-Alain Wachnin et Françoise Anne Ménager. Marc-Alain Wachnin, philosophe, spécialiste de la Bible hébraïque, aime croiser les textes religieux avec les disciplines profanes. C'est la spécificité de son émission qui n'est pas, selon lui, à proprement parler, religieuse. Il s'explique.
La tranche horaire est celle d'une émission religieuse. Il y a des émissions protestantes, musulmanes, et il y a la messe après nous, enfin pas très loin. Mais nous avons choisi une orientation un petit peu différente parce que nous considérons que le judaïsme n'est pas une religion mais une culture. Et que ce qui nous intéresse, c'est de montrer justement qu'est-ce que c'est que cette culture juive, c'est-à-dire une culture avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire une littérature, avec une langue, différentes langues, avec de la musique, avec de la peinture, avec des films, et aussi, ce n'est pas du tout exclusif, avec une tradition religieuse, une réflexion sur la théologie, mais ce n'est pas quelque chose qui est essentiel et premier.
Alors, c'est pourquoi vous aimez en fait croiser même les grands textes religieux juifs avec la philosophie, la psychanalyse, la musique, la littérature.
Oui, c'est-à-dire que, enfin, dans cette émission, mais de manière générale, dans la pensée que nous essayons de transmettre et dans la philosophie que j'essaye de promouvoir, si vous voulez, c'est une philosophie dialogique. À la fois dialogique dans les thèmes et dans la méthode, c'est-à-dire que on ne peut pas penser tout seul. Et nous pensons justement à partir du Talmud, où dans le Talmud, il n'y a jamais un seul maître qui pense seul, ils sont toujours au moins deux. C'est-à-dire que on pose une question, qu'est-ce que la beauté par exemple, qu'est-ce que le savoir, et il y a toujours un maître qui va dire « moi je pense que », et un autre qui va dire « ben non, moi je suis pas d'accord, je pense autrement ». Et c'est dans cette opposition, dans cette confrontation, dans cette marloquette, on dit en hébreu, qui fait qu'il n'y a jamais le risque de s'enfermer dans quelque chose de dogmatique, de s'enfermer dans une vérité définitive, parce que justement, on pense qu'il n'y a pas de vérité, mais simplement des approches différentes du sens. Voilà, comme dit Nietzsche, il n'y a pas de vérité, il n'y a que du sens. Et notre façon d'aborder ces émissions, c'est un petit peu comme justement Nietzsche abordait la dimension de l'art quand il dit « l'art nous a été donné pour que nous ne mourions pas de la vérité ». Voilà, et on voudrait avec nos auditeurs ne pas mourir de la vérité et d'avoir accès à différents visages du monde et de la culture juive. Donc voilà, on reçoit des poètes, on reçoit des écrivains, on reçoit des cinéastes, on reçoit des musiciens, on reçoit aussi des rabbins. Mais pas que. Et donc cette intelligence, et je suis heureux que vous ayez cité Françoise Ménager, parce que justement c'est une émission qui est coproduite, c'est-à-dire que au lieu d'être dans cette intelligence solitaire, solipsiste, comme disent les philosophes, on est dans une intelligence à deux, une intelligence collective, et je trouve que par les temps qui courent, c'est très important de savoir que c'est dans la rencontre, dans le frottement des intelligences que se fait l'éclat même de cette intelligence.
Est-ce que ça n'est pas davantage finalement une émission de sagesse que de religion, Marc-Alain Waknin ?
Ah ben, si vous le dites, je suis complètement d'accord. Oui, c'est complètement une émission de sagesse. Et si on l'entend en hébreu, d'autant plus, le mot sagesse en hébreu se dit chorma. Et il y a un jeu de mots que les kabbalistes ont introduit par rapport à ce mot, qui est le fait de couper le mot en deux, on appelle ça lire aux éclats, et ça écrit le mot koharma, qui veut dire la force du questionnement. Kohar, c'est la force, ma, c'est la question. Et donc, ce sont des émissions où on s'interroge, sagesse, parce qu'on accepte de ne pas savoir, de s'interroger, surtout d'être à l'écoute. Souvent, j'ai l'impression un petit peu, beaucoup d'auditeurs disent, mais vous écoutez. Je dis oui, hein, j'ai l'impression d'être un psychanalyste. Il y a aussi quelque chose d'un respect, d'une éthique, où je reprends la formule de Lévinas, c'est-à-dire que le rapport au visage, et il dit cette formule très très étonnante, il dit le visage, c'est pas ce que l'on voit de l'autre, parce que quand on regarde son visage, on connaît rien de l'autre. Le visage, dit-il, c'est la parole de l'autre. Le visage parle. Et pour que l'autre, son visage, puisse parler, il faut être à l'écoute. Et donc c'est une émission où nous nous mettons à l'écoute de la parole d'autrui. Et donc il y a une forme aussi, dans cette sagesse que vous évoquez, quelque chose d'une éthique de la relation à l'autre, d'une éthique de ce visage et de cette écoute.
Marc-Alain Waknin, coproducteur de l'émission Talmudique.
Écoutez la journée du bon pied. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF, la joie se partage.
On va à présent du côté des radios associatives qui affichent leur identité religieuse. Pour les catholiques à Paris et en Île-de-France, Radio Notre-Dame, créée il y a 40 ans, en 1981, par le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris. Et puis, pour le territoire français et en Belgique, il y a le réseau RCF, la radio chrétienne francophone, créée en 1982, à l'initiative de Mgr de Courtrai, archevêque de Lyon. Là encore, ce sont les dons et les partenariats qui financent ce réseau de 64 radios locales. Sur le contenu, on écoute Philippe Lanzac, directeur éditorial de RCF.
Écoutez, notre ligne éditoriale, on l'a beaucoup retravaillée parce qu'on pense que c'est important de l'affiner, de la scruter. Le monde change, l'Église change, la société change. Et il y a à peu près 5 ans maintenant, on s'est dit que la signature de RCF, ce serait la joie se partage, avec une promesse pour nos auditeurs en tant que radio chrétienne, mais aussi radio généraliste, qui est donner envie de comprendre et aimer le monde pour partager la joie de vivre et de croire. Voilà, on se dit que c'est important dans notre ligne éditoriale d'abord de donner à comprendre, d'aider les gens à discerner, à réfléchir. On n'est pas là pour penser à leur place, donc de réfléchir, de discerner, de donner à comprendre en les rapprochant des autres. C'est un axe important. Donner à entendre les autres, aussi ceux qu'on entend moins, les plus fragiles. Et puis, par ailleurs, c'est une dimension de l'être humain qu'on a tous, quand bien même on ne serait pas croyant, nourrir sa vie spirituelle et potentiellement découvrir la foi chrétienne. Quoi, là. Mais c'est nourrir ces trois aspects, donc rapprocher des autres, discerner, réfléchir et puis nourrir sa vie spirituelle.
Quelle est la part du religieux, j'allais dire, dans vos programmes et l'information ?
Alors, dès sa fondation, en 82, c'était en avril 82, RCF avec projet de partir à tout le monde. C'est une radio chrétienne pour tous et par tous. Voilà. Et donc, on est une radio généraliste. Donc, il y a un quart de nos programmes qui sont de l'actualité locale, parce qu'on a 64 radios en France et en Belgique, donc beaucoup de programmation locale, l'actualité nationale et internationale. plein d'émissions sur des questions de société, sur des questions... On a toute une émission le matin qui s'appelle « Je pense, donc j'agis ». Donc, on va réfléchir à des grands sujets de fond et voir aussi comment on peut se mettre en action au-delà de la réflexion. Donc, des émissions de société. Troisième quart, ce sont des émissions culturelles et musicales. Et puis, bien sûr, quatrième quart, des émissions spirituelles avec plein de propositions différentes pour, voilà, pour découvrir la culture chrétienne, nourrir sa foi... vivre aussi des temps de prière ou de méditation chrétienne. Voilà, donc tout un panel très large, sachant que près de 40 ans d'histoire, il y a 50% aujourd'hui de mes auditeurs, sur nos 3 millions d'auditeurs mensuels, il y a 50% des gens qui nous écoutent, qui ne mettent jamais les pieds dans une église. Voilà, et un quart de nos auditeurs qui se disent même non-croyants ou d'autres religions.
En effet, c'est tout à fait intéressant. Alors, quelques mots sur la grille d'été et cette sortie progressive du Covid.
Alors nous, on a vraiment cherché à accompagner... Nos auditeurs pour maintenir le lien. On a même créé des émissions pendant le confinement, une émission spéciale de nuit qui s'appelait Cultivons les liens pour garder ce lien avec ceux notamment qui étaient isolés. Et donc là, pour la grille d'été, on va proposer à nos auditeurs de changer d'air. Voilà. Donc on va voir plein de reportages pour découvrir les joyaux du patrimoine français autour de nous dans nos régions. Il y a des choses merveilleuses à découvrir pas très loin de chez soi. France, c'est encore un petit peu compliqué d'aller à l'étranger, même si ça va s'ouvrir un peu, mais redécouvrir ça. Changer d'air aussi par la musique. Et on a une émission qui s'appelle L'été des festivals, où on fait écho à tous les festivals qui peuvent avoir lieu en France. Et puis changer d'air aussi par la littérature. On va donner la parole à plein de libraires, vous savez, ces libraires dont on sont proches et qui nous ont un peu sauvé la vie pendant ce confinement et qui vont en partager leur coup de cœur pour là aussi s'évader grâce à la littérature pendant cet été qu'on va espérer le plus déconfiné possible.
On va respirer sur RCF. Je vous remercie, Philippe Lansac. Autre radio en France où la religion, en l'occurrence l'islam, est une composante de son identité, Beurre FM. Et l'on retrouve Adil Farkan, un des journalistes et présentateurs. Adil Farkan, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Quelle est la place de la religion sur Beurre FM, qui est une radio généraliste et communautaire?
C'est une vraie question, et dans la mesure où je vous dis ça, parce qu'on s'est posé la question en tant que radio de la diversité. Alors moi, j'aurais pas dit radio communautaire, j'aurais dit radio thématique. Ça me plaît plus davantage. Pourquoi? Parce que la radio thématique aujourd'hui, qui est celle incarnée par Beurre FM, qui a une histoire, hein, les années 80, n'oublions pas, la marche donc pour l'égalité, ce qui a valu donc la marche des Beurre. Et la radio s'est posée comme question, si vous voulez, pendant de très nombreuses années, à savoir qu'est-ce qu'on doit apporter aux auditeurs. En tout cas, notamment, pas que de la musique, mais comme réflexion de fond. Et c'est vrai que la place de religion, c'est naturellement, hein, elle s'est imposée d'elle-même. Pourquoi ? Je vais m'expliquer. Vous souvenez-vous, les Tweet Center, New York, 2001. C'est bien ça. Hein. À ce moment-là, il y a une vraie réflexion qui se pose. Comment véhiculer et de faire en sorte de donner une autre image de la religion de l'islam, par exemple, autre que celle qui est véhiculée par les médias mainstream, c'est-à-dire souvent rattachée au terrorisme, rattachée à la violence. Donc aujourd'hui, en tout cas, la radio Beurre FM s'est interrogée pendant plusieurs années. Et finalement, on a fini par pondre la chose suivante, c'est de se dire, on se doit en tout cas rendre accessible la place des religions, parce que il est impératif aujourd'hui de faire vivre le vivre ensemble, y compris quand on pense judaïsme, quand on pense christianisme et quand on pense islam. Et d'ailleurs, sur Beurre FM, on a une place tous les week-ends consacrée à une émission avec les trois personnalités. On a un imam, on a un prêtre, on a ou un curé, et puis on a aussi un rabbin qui viennent débattre sur des sujets de société, mais qui sont anglais, religion. Mais également, durant le ramadan, par exemple, maintenant depuis plusieurs années, la radio Beurre FM a décidé d'accorder une place, parce que c'est aussi la vie de nos auditeurs, n'oublions pas que la cible, c'est les quartiers populaires, et les quartiers populaires, la radio, c'est aussi sa mission d'apporter autre chose que de la musique, autre chose que des débats politiques. Et ce autre chose, c'est aussi faire en sorte de faire émerger une meilleure communication, une meilleure cohabitation entre les différentes religions. Donc, je disais, durant le ramadan, par exemple, eh bien, quotidiennement, on a un imam qui vient expliquer ce que c'est qu'un fait de société, évidemment, dans le quotidien, hein, le quotidien des Français issus de l'immigration. Donc, les accompagner et les informer. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tous les cas, je pense, me semble-t-il, Geneviève, c'est le rôle de la radio.
Et les auditeurs posent des questions hein, de la vie quotidienne. Comment concilier la vie quotidienne avec la vie religieuse? Il y a un imam, je suppose, qui répond à ces questions.
Alors, en dehors, effectivement, de la période du Ramadan, il y a un imam. On a instauré à la radio, dans la grille des programmes, un rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin, un imam qui va répondre, d'abord qui apporte un sujet toujours sur un fait religieux ou un fait de société religieux, d'accord, qui appartient évidemment au quotidien de nos auditeurs. Et ensuite, dans la deuxième tranche, les auditeurs peuvent interpeller l'imam qui répond donc aux questions sur telle ou telle chose. Comment dois-je faire en sorte de, évidemment, conjuguer entre et ma religion. Comment, voilà, c'est des questions, si vous voulez, qui sont simples, qui font partie de notre quotidien, mais la radio Beurre FM, en tout cas, essaie d'apporter dans ce paysage une meilleure approche, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce sens. Et puis, le samedi matin, là, c'est les trois qui se réunissent, les trois religions qui se retrouvent, donc pour parler ensemble du vivre ensemble.
Adil Farkan, journaliste à Beurre FM. Et nous allons à présent traverser l'Atlantique et retrouver le correspondant de RFI à São Paulo, Thierry Augier, qui va nous parler de l'importance des radios évangéliques qui accompagnent la multiplication des églises évangéliques au Brésil. Thierry Augier, bonjour.
Bonjour.
Alors, le poids des radios évangéliques au Brésil, comment peut-on le quantifier? Quel est ce poids?
Le poids est énorme, en fait, parce que d'un côté, il y a des grands groupes multinationaux qui ont des antennes jusqu'au Mozambique ou en Angola. Et à l'autre côté, on a une multitude de radios communautaires dans les quartiers souvent défavorisés, dans les favelas. C'est très simple hein, de monter une église évangélique. On dit qu'il suffit d'un garage, de mettre quatre chaises, un pupitre, un microphone, un pasteur, et puis c'est parti. Et il y a beaucoup de radios communautaires comme ça, qui sont souvent des radios pirates, qui apparaissent du jour au lendemain. Ils prêchent ce qu'on appelle ici une théologie de la prospérité, une sorte de méritocratie évangélique. En fait, dans le temple, le leader, c'est un peu comme un exemple de la réussite pour les autres. Alors, avec ça, on peut noter une influence grandissante des évangéliques dans le pays. On estime qu'environ un tiers de la population suit une des versions des églises évangéliques, alors que les catholiques sont à présent environ la moitié de la population.
Oui, c'est ça. C'est un phénomène, effectivement, que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine, mais celui-là particulièrement. Alors, au départ, c'est un pasteur canadien qui a créé la première radio religieuse au Brésil.
Oui, alors ça, c'est très intéressant. Il s'agit en fait d'un missionnaire canadien qui s'appelait Robert McAllister, qui est devenu Roberto McAllister pour les Brésiliens. Il est arrivé au Brésil dans les années 50 et le 1er août 1960, il a créé la première émission évangélique à la radio brésilienne. Ça s'appelait La Voix de la Nouvelle Vie sur Radio Copacabana. Il faut dire que la radio avait été instaurée au Brésil depuis les années 20, mais que les pasteurs, finalement, ne s'intéressaient pas beaucoup à la radio à partir de là. Mais cet exemple a eu un succès fou et à partir de là, il y a eu une augmentation très forte des radios évangéliques.
C'est ça, dans les années 80, notamment, ces radios qui dépendent de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Alors, le poids économique hein, de ces radios, qui sont toujours très souvent associées à des télévisions et puis à des maisons de disques, ce poids est tout à fait important, Thierry Augier.
Oui, tout à fait, un poids économique et un poids politique. En fait, dans les années 80-90, il y a beaucoup de groupes de presse qui ont été en difficulté financière et qui ont été rachetés par des églises évangéliques. La plus célèbre, c'est l'église universelle du règne de Dieu, du bispo de l'évêque Edir Macedo, et dont on retrouve les antennes jusqu'au Mozambique et en Angola. Et il faut dire qu'on retrouve également un message politique dans ces radios évangéliques, notamment en cette période de pandémie. Certaines radios font la publicité, entre guillemets, du traitement précoce, c'est-à-dire de la chloroquine, et s'élèvent également, comme le fait le président Bolsonaro, s'élève contre l'isolement et contre les mesures de restriction économique.
En fait, donc, ces radios, Thierry Augier, elles jouent le rôle de relais du discours de Bolsonaro.
Oui, tout à fait. C'est une sorte de caisse de résonance du discours du président Bolsonaro, tant sur la chloroquine qu'il vante à chaque discours, que sur le confinement qu'il dénonce.
Thierry Augier, correspondant de RFI à São Paulo. Direction à présent Rome, où nous rejoignons dans un studio de Radio Vatican le père Federico Lombardi, ancien directeur de Radio Vatican. Avant de parcourir avec lui l'histoire des 90 années de Radio Vatican créée en 1931 sous l'impulsion du pape Pie XI, on notera que Radio Vatican, une radio internationale, a de nombreux points communs avec RFI, avec ses rédactions en langue étrangère, ses réseaux de correspondants, ses radios partenaires qui reprennent ses programmes. Père Federico Lombardi, bonjour.
Bonjour.
Et merci pour cet entretien réalisé en duplex depuis un studio de Radio Vatican. Radio Vatican dont vous avez été le directeur des programmes avant d'en prendre la direction de 2006 à 2016, donc pendant 10 ans. Et dans le même temps, vous étiez le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Alors aujourd'hui, au terme d'une vie professionnelle consacrée à la communication du Vatican et à ses médias, vous êtes le président de la Fondation Vaticane, Joseph Ratzinger. Benoît XVI. Alors en France, nous fêtons le centenaire de la radio. Pour Radio Vatican, donc, c'était son 90e anniversaire en février dernier. En effet, le 12 février 1931, eh bien, le pape Pie XI inaugure Radio Vatican et on entendra pour la première fois à la radio la voix d'un pape. Alors, pour Pie XI, c'était une intuition majeure. Il fallait que le Vatican, en plus de l'Osservatore Romano, son média papier, comme on dirait aujourd'hui, il fallait une radio.
Oui, c'était aussi l'affirmation de l'indépendance d'un nouvel État, car on avait signé les accords avec l'Italie pour la fondation de l'État de la Cité du Vatican. Et alors, on édifiait, Pie XI a édifié vraiment un petit État, et avec les médias pour la communication libre avec tous les pays de la Terre. Alors la radio, c'était le symbole, l'instrument de la liberté de communication du pape avec tous les pays et toutes les régions de la planète. Et naturellement, c'était une nouveauté de pouvoir communiquer avec la voix humaine. C'est la grande nouveauté de la radio, à différence de la presse, des journaux et comme ça, qu'il y a seulement l'écriture. Hein. Avec la parole vivante, on peut sentir la présence d'une personnalité. Et c'était une grande émotion pour les catholiques du monde entier de pouvoir entendre dans toutes les parties du monde au même temps la voix du pasteur universel. Ça, c'était un peu l'importance des premières années des Radio Vatican. C'était plutôt un grand haut-parleur pour le pape pour être connu et entendu dans toutes les parties du monde avec sa voix.
Alors, du côté de la technique, père Federico Lombardi, un homme, bien sûr, majeur, hein, c'est l'ingénieur Guglielmo Marconi.
Et oui, il est l'inventeur de la radio, nous disons comme ça, en Italie au moins, et je pense aussi dans le monde, c'est reconnu. Et Pie XI a donné exactement à lui la charge de construire, de bâtir la première station de la radio. La petite station de Radio Vatican qui existe aujourd'hui aussi dans le jardin du Vatican, sur l'école du Vatican, était vraiment le lieu où Marconi personnellement a construit les instruments, les antennes pour émettre avec la radio et où a eu lieu l'inauguration avec les premiers grands messages au monde de Pie XI en présence de Marconi et d'un père jésuite, Jean Franceschi, qui étaient les présidents de l'Académie des sciences dans ce temple, et qui étaient les premiers directeurs à qui a été confiée la direction de la radio.
Alors, Radio Vatican va bien sûr traverser des époques cruciales, à commencer par la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Quel va être le rôle de Radio Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale et donc sous Pie XII ?
Et oui, c'était le temple, déjà depuis l'origine, des temples de totalitarisme. En Italie, on avait le fascisme, on avait le nazisme en Allemagne, et on avait le régime communiste en Union soviétique. Alors, vraiment, la radio a commencé son service dans un temple dans lequel elle était aussi un instrument de communication libre, au-delà des frontières, au-delà des limites posées à la liberté, en particulier aussi de notre côté à la liberté religieuse. Il y avait des grandes communautés catholiques qui étaient séparées de la possibilité d'une communication normale avec Rome et avec les autres parties de l'Église. Alors la radio était vraiment l'instrument principal pour pouvoir communiquer et conserver un sens d'unité et de présence aussi dans des pays dans lesquels on n'était pas plus libre. Hein. Et aussi pour la France, par exemple, pendant la résistance, avec l'occupation naziste, on a des témoignages historiques du fait que Radio Vatican était souvent entendue par le résistant, car c'était une radio libre. Et dans tous les pays de l'Est de l'Europe et en Allemagne, était très écouté par ceux qui voulaient conserver un sens, une espérance de la liberté. Et pendant la guerre, on a aussi fait un autre grand service, qui était un service humanitaire. Car on avait des grands nombres de personnes qui étaient dans les champs comme prisonniers ou qui étaient dispersées par la guerre, sans possibilité de communiquer avec les familles comme ça. Et Pie XII, avec Montini en particulier, organisait un grand service des communications humanitaires en envoyant des milliers, des millions de messages pour les personnes qui étaient prisonniers, qui étaient lointaines, comme ça, pour faire entendre une voix d'espérance et pour dire des informations aussi sur la vie des familles, comme ça.
Père Federico Lombardi, la guerre froide, c'est une autre grande période pour Radio Vatican.
Et oui, et aussi après la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans les pays de l'Est de l'Europe, on n'avait pas de possibilité de communication normale avec le reste de l'Église et du monde, nous pouvons dire. Et alors, Pie XII a voulu multiplier des programmes dans les langues des pays qui étaient sous l'oppression du régime communiste. Et dans l'histoire des radios Vatican, toujours un grand nombre, aussi maintenant, et aussi un grand nombre de langues sont les langues des pays de l'Est de l'Europe, pratiquement. On avait, je pense, 16 ou 17 langues différentes de tous les différents pays de l'Europe où il n'y avait pas de liberté. Et ce service était vraiment très apprécié. Nous avons eu l'expérience à la fin de la guerre froide avec la chute du mur d'une énorme quantité de lettres, des gratitudes qui arrivaient de ces pays en rédaction qui avaient quotidiennement fait un grand service sans pouvoir recevoir des réponses ou des contacts avec les pays. Mais, par exemple, la question Ukraine a reçu dans une année, après la chute du mur, dans les 91, 40 000 lettres de gratitude du côté des Ukrainiens qui écoutaient régulièrement les émissions, et en particulier l'émission de la messe. C'était une communauté catholique qui était persécutée très cruellement. Alors, le service de Radio Vatican était pour eux vraiment un appui spirituel fondamental. Et je me rappelle que j'ai reçu par les mains du président de l'Albanie le plus élevé ordre de l'Albanie, que c'est maintenant le Mère Teresa, la reconnaissance de Mère Teresa, pour la gratitude pour les services d'espérance et de liberté qu'on avait fait pour tout le peuple albanais dans tous les temps du communisme. Alors, c'est vraiment un grand service qui a été fait dans cette période.
Alors, dans cette nouvelle période qui s'est ouverte, évidemment, après la chute du mur, et puis aujourd'hui, bon, la mondialisation grandissante, comment voyez-vous la mission de Radio Vatican, Père Federico Lombardi ?
Oui. Mais j'ai toujours pensé que la mission de Radio Vatican, c'est toujours la même depuis son origine. C'est de servir l'Évangile, servir le message, la présence de l'Église chrétienne dans le monde, comme service aussi pour l'humanité d'aujourd'hui, dans toutes les différentes situations historiques, et en particulier en diffusant le message du pape, faire comprendre dans une façon constructive et positive, c'est que l'Évangile et l'Église a à dire pour l'humanité d'aujourd'hui, et comme dans une attitude fraternelle, dans une attitude dialogante, de compréhension, d'inculturation, d'attention à toutes les différentes cultures. Et ça, c'est une spécificité de Radio Vatican, l'utilisation des tellement de langues différentes, c'est une démonstration, un exercice d'inculturation, des dialogues entre les services d'Église et les différentes cultures du monde avec leurs spécificités. On a naturellement une grande attention à la situation culturel, historique, spirituel, des pays ou de guerre ou comme ça, des différents pays pour lesquels on parle.
Une dernière question, Père Federico Lombardi. Dès le départ, la Radio Vatican a été confiée aux jésuites. Vous êtes le dernier jésuite à avoir dirigé Radio Vatican. Vous le regrettez ?
Bon, moi, les jésuites ont toujours dit qu'ils sont au service pour faire ce que le pape leur demande. Alors, si le pape nous demande de le faire, on le fait. Si on ne le demande pas, on le fait pas, on fait d'autres choses. Et il n'y a pas problème de trouver un travail dans le monde. Naturellement, je fais avec tout mon cœur ce qu'on m'a demandé pour la radio, pour le centre de télévision, pour la salle de presse. Si on me dit merci, c'est terminé. Bien, alors je suis très content d'aller à faire d'autres travaux. Il n'y a pas rien à regretter. On peut dire qu'il y avait peut-être des raisons pour le service de la Compagnie de Jésus, car comme ordre religieux très international, avec des pères de langues très différentes, et aussi avec quelqu'un qui était préparé dans le sens scientifique, il y avait des raisons, je pense, assez spontanées pour Pie XI ou Pie XII, pour dire, bien, les jésuites, si on leur confie, ils sont un jésuite italien, un français, un allemand, un anglais, ils ont des techniciens, des scientifiques, ils peuvent gérer cet instrument. Maintenant, naturellement, on a beaucoup d'autres possibilités aussi dans l'Église et n'est pas plus nécessaire qu'ils soient seulement les jésuites.
Je vous remercie, Père Federico Lombardi. Merci pour cet échange.
Merci à vous, c'était vraiment un plaisir.
Plaisir partagé.
Laudetur Jesus Christus.
Et à vos côtés, une autre mémoire de Radio Vatican, Jean-Charles Puzolu. Jean-Charles Puzolu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur éditorial de Radio Vatican et de Vatican News. Arrivé en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin, vous avez accompagné l'évolution de Radio Vatican et sa révolution, on peut le dire ainsi, en 2017 dans le cadre de la restructuration de la communication du Saint-Siège avec désormais donc une rédaction unique, multilingue, multimédia. Et les journalistes du quotidien papier, l'Osservatore Romano, sont venus vous rejoindre dans les locaux de Radio Vatican. Alors, Jean-Charles Puzolu, est-ce que cette réforme était nécessaire ?
Je crois qu'à un moment, il fallait s'adapter au temps moderne de la communication et aussi parce que le contexte économique global ne permettait peut-être plus de continuer à garder des titres qui travaillaient de façon indépendante et avec très peu de synergie, tout en travaillant dans le dialogue depuis le départ. Et il a fallu mettre ensemble les rédactions de Radio Vatican, de l'Osservatore Romano, Vatican News, en fait, c'est la continuité de ces rédactions vers le multimédia, donc des équipes qui travaillent à la fois pour la radio et pour Internet, mais en même temps chacun, aujourd'hui encore, a gardé son identité. La radio reste la radio, l'Osservatore Romano reste le quotidien papier du Vatican. Étant tous dans les mêmes locaux, il est clair qu'aujourd'hui les synergies se sont multipliées. Et puis le site Internet est venu compléter un long passé de communication et toujours dans la même optique, c'est-à-dire ce support à l'évangélisation, un instrument pour l'évangélisation, que ce soit la radio ou l'Internet, ils ont aujourd'hui l'avantage de parler à partir d'un point unique à tous les coins de la planète, dans le monde entier. Ça a été depuis le départ de Radio Vatican, depuis 1931 et le premier message de Pie XI, et aujourd'hui encore, c'est comme ça. Mais voilà, les médias ont changé, il fallait s'adapter au temps nouveau, au temps moderne, et s'adapter à l'Internet et aux réseaux sociaux, hein. Quand on parle de l'Internet, il faut évidemment y inclure les réseaux sociaux. Il fallait donc une impulsion, et c'est François qui a donné cette impulsion, pour que l'on s'oriente vers ces nouveaux médias.
Les contenus ont changé ou pas ? Le fait effectivement de cette réforme, de cette donc réunion des rédactions, multimédia, multilangue, etc., est-ce que ça a changé les contenus ?
Alors, les contenus ont changé au fil des années, bien avant la réforme. Ils se sont adaptés. Encore une fois, la radio a commencé en italien. Le père Lombardi expliquait qu'un certain nombre de langues avaient été ajoutées, 16, 17, et puis on en est aujourd'hui à pratiquement 47, quelques-unes en plus qui sont moins régulières et notamment des langues africaines, mais ces langues-là se sont ajoutées et elles ne sont pas toutes une traduction de la langue italienne. Elles sont toutes, en revanche, un moyen de communication qui est adapté au contexte social, culturel et politique du public auquel il s'adresse. Il est clair que les émissions en français aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les émissions en italien. Les contenus principaux, évidemment, qui concernent l'activité du pape et du Vatican se recoupent. Mais ensuite, on va parler d'une façon différente à nos auditeurs. Le modèle d'émission qui peut fonctionner pour des médias francophones n'est pas forcément le modèle d'émission qui peut fonctionner pour des pays, je prends par exemple la Russie ou l'Ukraine ou quelques pays africains ou même l'Amérique latine.
Vous avez une idée du nombre d'auditeurs ?
Le nombre d'auditeurs global, non. J'ai une idée du nombre d'auditeurs francophones en ce qui concerne la France, la Belgique et la Suisse. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des données au niveau de l'Afrique, par exemple, parce que c'est les radios qui nous reprennent en Afrique, il y en a des grandes, il y en a des petites, elles sont dans les métropoles, elles sont dans les campagnes, et elles-mêmes n'ont pas encore toutes ces informations, elles sont jeunes. Donc pour nous, c'est assez compliqué. Mais ce que je peux vous dire, sans vous donner des chiffres très précis, c'est qu'on parle chaque semaine pour Radio Vatican en français de plusieurs millions de personnes, de plusieurs millions d'individus qui, au cours d'une semaine, ont écouté au moins une fois un programme de Radio Vatican. Donc ça, pour nous, pour la langue française, c'est fondamental et c'est un argument qui nous permet aujourd'hui de continuer à travailler, de continuer à soutenir l'information que l'on produit dans cette langue.
Alors, cette question que je vous ai posée, Jean-Charles Puzolu, eh bien, le pape François vous l'a posée le lundi de Pentecôte, quand il est venu dans les locaux de Radio Vatican et de l'Osservatore Romano. Ça a d'ailleurs créé un certain émoi, puisqu'il a demandé, de façon un peu à la François, j'allais dire un peu ferme, tous les jours, est-ce que vous posez cette question ? À combien de gens parlez-vous, atteignez-vous ? Ça écrit quand même une certaine émotion, manifestement, à Radio Vatican et à l'Osservatore Romano.
Oui, bien sûr, sur le moment. Mais François est un peu un bon père de famille qui rappelle à son fils et à ses enfants qu'il faut pas s'asseoir sur ses lauriers et qu'il est bon toujours de se remettre en question, de pas considérer que les acquis sont valables pour l'éternité et que chaque jour, il faut être capable de s'adapter, de recommencer s'il le faut, jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Donc, ces paroles de François en direct qui ont été ensuite développées lors d'une autre rencontre après son intervention en direct, il faut les lire comme un encouragement à toujours avoir la capacité de se remettre en question. Et je crois que c'est l'aspect positif et fondamental. Mais oui, François a pour habitude aussi de mettre des coups de pied dans la fourmilière.
Oui, bien sûr.
Mais ça fait du bien.
Et sa crainte, c'est effectivement la lourdeur de la bureaucratie vaticane, d'une façon générale.
Oui, c'est un système qui a ses lenteurs, ses habitudes. Le dicastère pour la communication, c'est le regroupement de 11 institutions différentes, chacune avec son histoire, ses habitudes. C'est un peu bureaucratique, c'est vrai, mais on travaille là aussi à l'allègement de tout ça, de façon à pouvoir répondre avec rapidité aux demandes qui nous arrivent et pouvoir aussi avec rapidité s'adapter à notre époque.
Merci Jean-Charles Puzzolu. Je rappelle que vous êtes le coordinateur éditorial de Radio Vatican et de Vatican News. Merci.
Merci à vous.
Radio Vatican, France et Afrique.
Plus de 1000 radios retransmettent les programmes de Radio Vatican dans 70 pays du monde. Sur le continent africain, pour n'en citer que quelques-unes, Radio Immaculée au Bénin, une bonne douzaine de radios au Burkina Faso, Radio Don Bosco à Madagascar, Radio Elikia en République démocratique du Congo. Toujours en duplex de Radio Vatican, Filomeno Lopez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc journaliste à Radio Vatican depuis de longues années. Vous êtes originaire de Guinée-Bissau et vous êtes donc un des journalistes de la section lusophone. Chaque jour, cette section produit notamment pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe, mais pour l'Afrique, 28 minutes de programmes et d'infos. Quelle est la difficulté précisément de parler à l'Afrique quand on se trouve à Rome ?
Je pense que c'est une autre façon de se poser. Non, parce qu'ici, on est là pour travailler à partir de la Saint-Siège et travailler pour notre pays. Donc, c'est une opportunité que l'Église nous donne pour être nous-mêmes, comme disait Paul VI, missionnaires de nous-mêmes. Donc, l'Église nous met en disposition un instrument tellement important comme la radio pour nous d'essayer de parler par nous-mêmes, non? Et essayer de voir les façons meilleures, en connaissant mieux l'environnement, les cultures, les gens, etc. Comment faire arriver ce message du pape partout en Afrique? Et c'est ça. Donc, je pense que c'est une occasion très importante qui nous est donnée. Mais aussi, c'est que je pense, personnellement, je pense que normalement on arrive ici comme Africain, mais on sort d'ici comme quelqu'un de la catholicité vraie. Parce que une des richesses meilleures de cette radio, c'est la capacité de pouvoir s'entretenir avec des gens qui venaient de tout le monde, de toutes les cultures. Non? Donc vous venez avec votre identité d'Africain, mais à la fin, vraiment, vous faites cette expérience de la catholicité de l'Église. C'est avec cette présence que je pense aussi que, comme Père Lombardi a bien expliqué d'abord. Donc, pour moi, c'est ça la chose la plus édifiante, qui dit que nous essayons de vivre le message de la paix, qui est, que ça veut dire? C'est bâtir une communauté de vie. Et c'est ça que je pense que c'est l'expérience la plus importante que je retiens pour moi-même. Oui, oui.
Merci Filomeno Lopez pour votre témoignage. Je retiens, vous étiez arrivé à Rome africain et vous repartez maintenant citoyen du monde. Religion du monde s'achève. Nous remercions les services techniques de Radio Vatican de nous avoir permis de réaliser ce duplex. En effet, si la radio c'est magique, ça n'est pas miraculeux. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain sur les ondes de RFI. En attendant, bonne semaine à tous.
La marche du monde.